L'heure du journal qui vous est présenté ce soir par Thomas Cluzel. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à toutes et à tous. Ils sont sains et saufs. Après deux semaines piégés dans une grotte inondée, les 12 jeunes footballeurs thaïlandais et leur entraîneur ont tous été évacués au terme d'une périlleuse opération de secours que nous détaillera sur place Mathieu Mandoloni. Liu Xia, la veuve du dissident chinois Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, a quitté Pékin ce matin de son plein gré à destination de l'Allemagne. Son départ intervient après des mois d'activisme des organisations de défense des droits de l'homme qui ont mis la pression sur le gouvernement chinois pour qu'il autorise la poétesse à quitter le pays. Dominique André nous appellera de Pékin. Après le Dieselgate, le diesel crash, les ventes de voitures à motorisation diesel sont en chute libre. Elles ne devraient plus représenter qu'un quart des ventes de voitures en Europe d'ici deux ans. Explication dans ce journal d'Hakim Kasmi. Enfin, les époux Balkany sont soupçonnés d'avoir dissimulé à l'administration fiscale un patrimoine d'environ 13 millions d'euros. Ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Et ce, après une vaste enquête longue de près de 5 années, nous dira Florence Turm. Voilà 15 jours maintenant que la Thaïlande tout entière était suspendue à la saga de ses 12 enfants et de leur entraîneur perchés sur un promontoire dans les tréfonds d'une grotte inondée par la montée des eaux. Après avoir désespérément passé en revue toutes les solutions possibles, percer des tunnels dans la montagne ou bien attendre pendant des semaines la fin de la mousson, les secouristes avaient finalement décidé de tenter le tout pour le tout, les sortir un par un par la voie inondée grâce à une équipe de plongeurs aguerris, ce alors même que tous les enfants âgés de 11 à 16 ans ne savaient pas nager. Le décès d'un plongeur a d'ailleurs pendant un temps semé le doute quant à la faisabilité de l'opération. Le film Catastrophe s'est donc finalement terminé aujourd'hui. Les secouristes ont réussi à évacuer les 5 derniers rescapés encore coincés. Désormais, les 12 enfants, les 12 sangliers sauvages, comme on les appelle, et leur entraîneur de foot sont tous hors de danger et a priori en bonne santé. C'est une correspondance de Mathieu Mandoloni.
Tout le monde a été sorti en moins de 9 heures, les 4 garçons d'abord, puis leur entraîneur qui voulait quitter cette grotte où ils seront restés 17 jours en dernier. Une nouvelle officialisée par la marine thaïlandaise qui a indiqué avec humour que les 13 sangliers sauvages étaient désormais hors de la grotte, mais qu'il restait encore 4 grenouilles à ramasser. Ces 4 grenouilles, ce sont les 3 derniers plongeurs d'élite et un médecin qui était auprès des enfants depuis plusieurs jours déjà. L'histoire se termine donc bien et ici, l'annonce de l'évacuation a été accueilli par des cris de joie et des applaudissements. Toute la Thaïlande s'était mobilisée pour eux, me confiait il y a quelques instants une jeune volontaire. Alors évidemment, c'est une fin très heureuse, une fin que tout le monde s'apprête à célébrer ce soir en pensant à ces 12 enfants désormais à l'hôpital. Ils devraient en sortir dans une semaine et enfin retrouver une vie normale.
Une autre histoire à présent qui, elle aussi, sans doute pourrait faire l'objet d'une adaptation à l'écran, celle de la poétesse chinoise Liu Xia. Depuis que son époux avait obtenu le prix Nobel de la paix, c'était en 2010, elle n'était plus libre de ses mouvements. Et sa situation n'avait pas davantage évolué depuis le décès de son mari il y a quasiment un an, jour pour jour. Alors ce matin, la veuve du dissident Liu Xiaobo a finalement réussi à quitter la Chine à destination de l'Allemagne où elle est arrivée il y a moins d'une heure. Son départ intervient d'ailleurs au lendemain d'une rencontre entre le premier ministre chinois et la chancelière allemande, une rencontre manifestement décisive. Pour autant, il serait hasardeux d'en conclure que la situation des droits de l'homme s'améliore en Chine. Mais peut-être Pékin a-t-il compris que maintenir Liu Xia en résidence surveillée donnait de son pays une image cruelle, à moins que les autorités chinoises ne cherchent à amadouer les Européens avant un sommet Chine-UE prévu la semaine prochaine à Pékin. Quoi qu'il en soit, Dominique André, pour Liu Xia, c'est donc la fin d'un long calvaire.
Après un an en résidence surveillée à Pékin, isolée dans son appartement, l'épouse du prix Nobel de la paix a été autorisée à quitter la Chine. L'Allemagne s'était beaucoup impliquée dans ce dossier pour obtenir la libération de la poétesse chinoise. À 3 jours du premier anniversaire de la mort en détention de son époux, porte-drapeau de la dissidence chinoise, Liu Xia voyage en Allemagne pour un traitement médical, confirme Madame Roy, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Liu Xia, qui est âgée de 57 ans, souffre d'une dépression grave, confirme Rudia, jeune dissident en pointe aujourd'hui en Chine.
Ces 8 dernières années, depuis le prix Nobel de la paix, Liu Xia a été une prisonnière, comme son mari. Elle a dit « Aimer Liu Xiaobo est un péché pour le Parti communiste chinois. Cela équivaut à une punition. À cause de cette répression, Liu Xia souffre d'une très grave dépression et d'insomnie. Elle est au bord du gouffre depuis très longtemps. »
Il y a quelques semaines, Liu Xia a affirmé ne plus vouloir vivre. « Je suis tellement heureux. » Enfin, Sia arrive aujourd'hui, s'exclame Liao Yiwu, célèbre écrivain chinois en exil en Allemagne. Mais les réactions sont peu nombreuses en Chine, l'information est censurée.
En Afghanistan, un kamikaze qui ciblait les forces gouvernementales s'est fait exploser ce matin à proximité d'une station-service dans les faubourgs de Jalalabad. Au moins 12 personnes ont péri, dont 10 civils, dans cet attentat revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. Et puis en Syrie, après que 27 combattants des forces pro-régime ont été tués hier soir par une attaque menée par des factions rebelles dans le nord-ouest du pays, le régime de Bachar al-Assad et son allié russe ont mené en représailles des raids aériens aujourd'hui contre les territoires rebelles de la province d'Idleb, tuant 4 civils. En pleine tourmente, Theresa May s'accroche à la tête du gouvernement britannique malgré la menace d'un vote de défiance. Et après les démissions de deux poids lourds de son gouvernement, la première ministre qui réunissait son cabinet aujourd'hui s'est montrée bien décidée à rester au pouvoir. Il faut dire qu'en dépit du brouhaha, l'arithmétique au Parlement n'a pas changé. Pour l'instant, les Brexiteurs purs et durs ne sont toujours pas assez nombreux pour la chasser du pouvoir, pas plus d'ailleurs que pour imposer leur version préférée de Brexit à la Chambre des communes. Aux États-Unis, on connaît depuis hier soir le nom du juge choisi par Donald Trump pour siéger à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, 53 ans, une nomination qui, le cas échéant, ne fera que confirmer la sensibilité conservatrice de la haute cour, ce qui fait craindre d'ores et déjà que de nombreux acquis sociaux pourraient être enterrés, en particulier le mariage gay et le droit à l'avortement. Reste que le choix du président doit encore être avalisé par le Sénat. Or, les républicains n'y sont aujourd'hui majoritaires qu'à 2 voix près, ce qui signifie que les jeux ne sont pas encore tout à fait faits. Ils sont de retour, Patrick et Isabelle, les époux Balkany, seront jugés en correctionnel, notamment pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, corruption passive et prise illégale d'intérêt. Les juges viennent de décider leur renvoi. Florence Thion, bonsoir.
Bonsoir.
Pour être tout à fait clair, le maire de Levallois, Perret, et son épouse sont soupçonnés d'avoir dissimulé plusieurs millions d'euros au fisc.
Oui, c'est en fait l'aboutissement de l'information judiciaire ouverte fin 2013 et le second volet de la procédure qui vise les époux Balkany. Au départ, les soupçons porte sur les incohérences entre leur train de vie et les montants déclarés à l'administration fiscale. Bercy dépose plainte pour fraude sur la base des éléments mis au jour par l'enquête autour du luxueux moulin de Giverny en Normandie, dont les époux Balkany auraient sous-estimé la valeur pour échapper à l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais ce n'est pas tout, et loin de là, car les magistrats vont également découvrir l'existence de 2 autres biens immobiliers, la villa Pamplemousse à Saint-Martin et un riad à Marrakech dont les Balkany vont commencer par nier la propriété. Sur le papier, les 2 biens en question appartiennent en effet à plusieurs sociétés basées en Suisse, au Panama et au Liechtenstein. Tracfin, l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent, intervient pour tracer des mouvements de fonds suspects. Les juges multiplient les commissions rogatoires internationales. Les époux Balkany contestent de bout en bout les faits qui leur sont reprochés, mais les magistrats sont désormais convaincus qu'ils ont mis en place des montages de plus en plus sophistiqués, et ce, avec la complicité de leur fils Alexandre. Alexandre, officiellement locataire du riad de Marrakech, riad en partie financé par un homme d'affaires saoudien, Mohamed Al-Jaber, renvoyé lui pour corruption active, car il négociait par ailleurs un projet immobilier d'envergure dans la ville de Levallois-Perret. La justice a saisi les 3 propriétés suspectes, dont la fameuse villa Pamplemousse, vendue depuis pour 2 millions d'euros, montant qui reste également bloqué par la justice. Au total, ce sont entre 13 et 15 millions qui auraient échappé à l'administration fiscale.
Florence Thion, merci. Convaincre par l'art oratoire après Emmanuel Macron. Hier, c'était au tour du Premier ministre Édouard Philippe de se plier à l'exercice cet après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Avec un défi de taille, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins que de persuader les parlementaires du bon fondé, du bien fondé de la révision constitutionnelle voulue par le chef de l'État. Or, pour un certain nombre d'entre eux, cette réforme serait tout simplement une attaque au bazooka perpétré contre le pouvoir législatif. Alors, réponse cet après-midi du Premier ministre. L'une des forces de la Ve République, c'est sa capacité à se perfectionner, non pour changer de nature, mais pour demeurer fidèle à sa logique, une capacité d'adaptation qui lui permet de retremper sa légitimité dans la confiance populaire. Fin de citation. Eux ont d'ores et déjà perdu une partie importante de leur gâteau. Eux, ce sont les présidents de chambres de commerce et d'industrie. Bruno Le Maire entend leur retirer 400 millions d'euros de crédit d'ici à 2022. L'effort que nous vous demandons est effectivement important, a concédé aujourd'hui le ministre de l'économie dans un discours à huis clos, mais dont l'AFP a obtenu une copie de la prose. Bruno Le Maire a notamment assuré ne pas vouloir faire une croix sur les CCI, mais faire en sorte qu'elles se réinventent. Après que le constructeur automobile Nissan a reconnu hier avoir falsifié des tests sur le contrôle de la pollution de ses véhicules produits au Japon, La question pouvait se poser ainsi, allions-nous être étouffés dans un nouveau Dieselgate ? Mais c'était sans compter l'étude publiée aujourd'hui par un cabinet de conseil spécialisé dans l'automobile, Alix Partners, et de laquelle il ressort que l'asphyxie est en réalité toujours latente. Non seulement la baisse des ventes de véhicules à motorisation diesel s'annonce vertigineuse, ce qui signifie que les clients se tournent vers les voitures à essence, les plus émettrices en CO2, mais ça n'est pas tout. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour.
Cette accélération du recul du diesel pourrait aussi avoir des conséquences dramatiques sur l'emploi.
Oui, en 2020, les voitures diesel ne représenteront plus que un quart des ventes. Alors, à titre de comparaison, le parc automobile français comptait 72% de voitures diesel en 2012. Cette chute spectaculaire s'explique par l'affaire du Dieselgate de Volkswagen, des normes anti-pollution de plus en plus drastiques imposées par la Commission européenne aux constructeurs, une fiscalité de moins en moins avantageuse, ou encore les villes qui acceptent de moins en moins les voitures diesel, comme on l'a vu récemment en Allemagne. Résultat, selon le cabinet Alix Partners, qui fait référence dans le secteur automobile, 45 000 emplois pourraient être détruits en France dans la filière diesel. Car la fabrication de ces moteurs est spécifique et redéployer les salariés du diesel sur des chaînes de montage de moteurs essence ne suffira pas, selon Bernard Julien, économiste et maître de conférence à l'Université de Bordeaux.
Les constructeurs, généralement, ils sous-traitent une part assez importante du type les injecteurs, les OGR, etc. Donc il y a des grands sous-traitants qui, eux, sont assez bien identifiés. C'est Bosch à Rodez, c'est Delphi en Touraine. Là. Puis ensuite, au-delà de ces grands établissements qui sont très faciles à identifier, il y a des industriels de la mécanique, des gens qui font, je ne sais moi, de l'acoustique. Un moteur diesel, ça vibre plus qu'un moteur essence. Par conséquent, on a davantage besoin de maçonneriser la caisse. Hein, et de loin en loin, il y a quand même toute une série de conséquences industrielles qu'on a peine aujourd'hui encore à jauger avec exactitude, même si les uns et les autres ont commencé à s'atteler à la tâche.
Quant aux véhicules hybrides et électriques qui représentent l'avenir de l'automobile, ils ne permettront pas totalement de maintenir tous les emplois, car la fabrication de leurs moteurs nécessite moins de pièces et donc moins de main-d'œuvre.
Merci Hakim Kasmi. Comme chaque soir, direction à présent le Festival d'Avignon avec la reprise Histoire du théâtre, une pièce conçue et mise en scène par l'artiste suisse Milo Rau. Nous voilà replongés dans un fait réel, le meurtre d'un jeune homosexuel. Et même si le spectacle a vu se lever la salle tout entière pour de très longs applaudissements, les spectateurs, Joël Gaillot, n'auront pas été épargnés.
Quelle différence y a-t-il entre un spectateur de théâtre et un voyeur ? Réponse Thomas, aucune. Dans les deux cas, celui qui observe consent à la passivité, aussi effroyable soit la scène qui a lieu sous ses yeux. C'est à cette impasse infernale que mène Milo Rau, metteur en scène, qui a le don immense, rare, gênant, troublant, d'emmener le public vers un état de perception du réel si aigu qu'il n'est qu'à peine tolérable. La reprise est un spectacle documentaire et fictif qui reconstitue l'assassinat gratuit d'un jeune homosexuel un soir de fête en Belgique. Avant le crime, on rencontre les parents, inquiets du silence de leur fils, puis voici le petit ami de la victime qui cherche en vain un sens au carnage. Et enfin, il y a l'anatomie du massacre. Le garçon fait l'erreur, à la sortie d'une boîte de nuit, de suivre trois hommes en quête de meufs. Ce sont leurs mots. Et très vite, leurs coups pleuvent. Son corps en charpie sera abandonné, nu, sur un terrain vague. Cette scène de violence aveugle, Milo Rau l'a fait rejouer par quatre acteurs à l'intérieur d'une voiture à l'arrêt sur le plateau et filmée de très près. La séquence s'éternise, 20 minutes au bas mot. Elle nous passe par le corps, elle est insoutenable. Pourtant, on nous l'a dit en préambule, tout ça c'est du théâtre, du chiquet, de la triche, du faux. Alors pourquoi sortons de cette représentation nauséeux, mal à l'aise et chancelant ? Sans doute parce que pendant ces 20 minutes d'un tabassage aussi inepte que tragique, nous avons détourné les yeux. La scène était irregardable, le théâtre ayant succombé aux effets de réel, et pourtant nos yeux au fond de nos poches. Nous sommes restés passifs, spectateurs donc voyeurs, voyeurs donc complices, complices et responsables, responsables donc coupables. Ce théâtre-là ne nous laisse pas en paix, et ça, Thomas, c'est édifiant.
On termine ce journal avec un mot de météo pour vous dire tout d'abord que dans les prochaines heures, la journée sera encore ensoleillée sur la plupart des régions. La soirée devrait être calme et sèche. La nuit, elle, sera chaude et pas seulement après le coup d'envoi à 20h de la demi-finale des Bleus face à la Belgique. Enfin, demain, signe du ciel ou pas, le temps connaîtra des passages nuageux au nord et sera beau au sud. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Jean-François Braun.